Yeah. Et bien voilà, petite édition spéciale, la chronique du caméléon. Et oui, le caméléon est sorti un peu de sa zone de confort. Il a arrêté de faire un tour sur la Castagnade. Il est parti faire un tour à la manifestation qu'il y avait à Aubenas, sur l'Agora, s'il vous plaît, la place publique, qui est censée représenter la liberté d'expression du peuple, quoi, de vous, de moi, de tout le monde, quoi. Sur cette manifestation, donc du 10 novembre, qui était une manifestation internationale, et ben, je vous laisse écouter ce que ça donne.
Qu'est-ce qui vous réunit ? Vous avez plein de choses à dire, je suis sûr. Vous n'êtes pas là pour rien.
Non, pas moi.
Ah, t'as le droit de dire ce que tu penses en tant que citoyenne.
L'inflation galope et les salaires suivent pas, voilà. Toujours le même problème.
L'inflation, c'est-à-dire l'inégalité causée par le système financier marchand ?
Pas que, l'augmentation des prix en tout.
C'est lié à l'exploitation de ce monde par les financiers et les marchands.
Bah ça s'appelle le capitalisme, mon ami.
Et ça fait du bien de l'entendre. Donc, du coup, là, l'action, c'est quoi aujourd'hui ?
C'est un rassemblement pour demander l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà.
Et puis entre aussi autres. Sur toutes les réformes qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire la Sécu, sur tout ce qui va être le droit des chômeurs, voilà, des précaires et tout ça. Là, ça veut dire où on va, leur supprimer un certain nombre de droits qui n'étaient déjà pas énormes, mais qui va encore réduire comme peau de chagrin. Avec un conditionnement qui, si ça avance comme ça, où ils ne pourront pas, faire autrement que de prendre le boulot qu'on leur proposera et qui sera en liaison directe avec les besoins des entreprises sans qu'ils aient le choix au niveau du travail, de ce qu'ils faisaient avant ou pas, et voilà. Et puis, il y a quand même où on voit même dans les grèves qui sont données, les seules réponses que l'on donne bien souvent, c'est des primes. Et les gens ne réclament pas des primes, ils réclament un salaire qui leur permettra de pouvoir, cotiser la sécu, cotiser partout, qui fait que quand on nous parle des trous qu'il y a ou des dangers de ne pas pouvoir payer les retraites par la suite, eh ben, le problème c'est que si on réduit, les cotisations que les gens payent que l'on fait en sorte qu'il y ait, des cadeaux au patronat et qu'ils soient exonérés de cotisations aussi, ça fait qu'il y a des trous qui se feront à la sécu, qui se feront pour les retraites et tout. Voilà.
Et ça, c'est quand même assez délirant de voir que les profiteurs de la crise, quelle qu'elle soit, ne sont jamais autant gavés. Là, on parle de bénéfices à coût de centaines de milliards d'euros.
Mais oui, mais c'est des sommes
et qu'un dixième de ça suffirait à renflouer les caisses de l'État quand même.
Oui, mais bien sûr, là, on voit aussi que ces gens qui demandent aux travailleurs de faire des efforts, eux, risquent de rien au niveau des efforts. Ils n'en font pas, vu qu'on leur donne, on leur resserre. Et l'argent qu'on leur donne, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des gens qui bossent, qui produisent, qui font les richesses de ce pays. Et la richesse de ce pays, c'est les gens qui sont dans les usines, qui sont dans les bureaux, qui sont partout. Et ce n'est pas ces gens qui en profitent et qui vont avoir, les bienfaits de l'État. Quand ils font des bénéfices, ils ne redistribuent pas aux travailleurs. Par contre, lorsque, on le voit pour Total, les copains des raffineries qui ont été en grève pendant très très longtemps, quand on voit les profits qui ont été, donnés par Total à des actionnaires, on se dit, mais c'est pas possible. Et quand on leur dit aux travailleurs que c'est pas possible qu'ils puissent au moins avoir, une contribution qui rattrape un peu l'inflation et tout ça, on leur dit que c'est pas possible à chaque fois. Parce que de toute façon, le système dans lequel on est, et c'est le gouvernement dans lequel on est, mais ça a été déjà avant, on a réduit, quand on voit l'hôpital, quand on voit partout qu'on a réduit, là on voit, partout, à l'école, à les lycées professionnels, on va les fermer pour privatiser. Alors même si on nous dit que c'est pas une privatisation, c'est une privatisation latente, parce qu'on sait très bien que souvent ces formations seront récupérées par le privé, ou sinon, de toute façon, ça sera le patronat qui s'en servira pour faire la formation. Et faire un espèce de moule pour que les jeunes soient dans le moule directement, comme on le fait pour l'armée, comme on le fait pour tout ça. Donc il est important que les gens se battent et se remuent. Peut-être que même si on n'est pas nombreux aujourd'hui, peut-être que demain il faudra le répéter pour que les gens prennent conscience que en ayant, en luttant, on représente cette force qui fera qu'un jour une société sera plus égalitaire.
Un peu égalitaire, alors que bon, on est quand même censé,
dans ce pays, égalitaire, pas un peu égalitaire. faut qu'elle soit égalitaire. Parce que je ne vois pas pourquoi les besoins des populations, peu importe quelles sont, ont besoin de manger pareil. Pourquoi il y aurait des gens qui se gavent et des gens qui crèvent la dalle? Pourquoi il y aurait des gens qui peuvent se soigner correctement parce qu'ils ont des entrées, ils ont des... et d'autres qui vont attendre des mois pour avoir être soignés? Et qu'il y a des inégalités aussi criantes, que c'est pas normal, c'est pas normal. Une société égalitaire, c'est une société où les gens, on sont tous à la même enseigne.
Ouais, et faudrait
a priori, pour, en tous les cas pour moi, hein, pas pour d'autres, mais j'allais dire ceux qui produisent et ceux qui doivent diriger, j'allais dire ce pays, c'est-à-dire ils produisent, bah, il faut qu'ils aient... j'allais dire les moyens de contrôler et leur sécu, parce que c'est eux qui contribuent par leurs cotisations, c'est eux qui doivent regarder comment se font les investissements, parce que c'est eux qui cotisent et c'est eux qui payent des impôts. Il faut que les citoyens reprennent en main ce qui leur est dû, c'est-à-dire leurs cotisations, leur travail et tout ça. Et que dans les entreprises, ce soit eux qui, j'allais dire, dirigent un peu l'entreprise et non pas le patron, parce que le patron, lui, il sert à quoi? À rien, il produit rien. Il n'y a que les gens qui bossent qui produisent, pas lui. Alors après, on va me dire que c'est un peu excessif, mais...
Face à un capitalisme extrémiste, je ne sais pas si c'est vraiment excessif, en fait. Réclamer nos droits qui sont inscrits sur toutes les mairies, tous les bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité, je ne vois pas où c'est excessif.
On sait très bien que ces gouvernements, là, mais les autres d'avant, hein, ont eu un beau, de bons écrits sur leur fronton des mairies. À une époque, ça avait peut-être une importance pour les gens qui se sont battus pour réaliser ces combats, ces acquis sociaux. Mais là, maintenant, c'est joli, ça fait bien dans le texte, quoi. Ça fait bien comme ça pour le dire quand on est à la télé, quand on est dans les, je sais pas, dans les réunions. Mais la réalité, c'est pas ça. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a rien. Il y a des gens qui se gavent et d'autres qui crèvent la dalle. Et puis d'autres qui, s'ils ne crèvent pas aujourd'hui, risquent de crever demain. Et voilà. Et on ne peut pas considérer que les réformes qui se font actuellement soient des réformes. C'est des contre-réformes. C'est, j'allais dire, on reprend ce que les travailleurs avaient gagné et que nos anciens avaient gagné en luttant, en luttant et en luttant. Et il n'y a que comme ça, avec l'unité bien sûr. Là, il y a des gens qui sont syndiqués, d'autres qui ne sont pas. Il y a des gens qui sont dans des partis, d'autres qui ne sont pas, voilà. Mais il est important que tout ça, et tous ces gens qui se battent, qui convergent dans la même direction, voilà.
Super, bah merci, en espérant que ces convergences sur le niveau social, écologique et autres, finissent par se faire, parce qu'en fait, tout est lié.
On le voit,
quoi,
par rapport à la révolte de la jeunesse, hein, sur l'écologie, parce qu'ils sont aussi très inquiets, et ils ont raison.
Hein.
Mais oui, mais ils ont raison. Après, les méthodes qu'ils choisissent, ben, ils sont jeunes. Et ben, ils ont jeunes et puis ils se disent qu'ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps d'attendre qu'un tel ou un tel et qu'on te fasse des cadeaux encore à des entreprises qui polluent à tout va et qui, eux, lorsqu'ils font la moindre petite action, on va leur dire « Ah, c'est grave », tout ça.
C'est vrai que le poids même de la justice n'est pas pareil quand on voit les grandes sociétés qui peuvent pendant des années ne pas payer d'impôts, que même l'État français a été en justice déclaré coupable d'inaction et de non-respect de ses engagements au niveau climatique, etc. Et pour eux, rien. Par contre, toi, tu fais la moindre petite incartade, tu prends 40 heures de garde à vue.
Oui, et bien sûr. Là, je veux dire, on a criminalisé de toute façon le mouvement social. Or, on a criminalisé les revendications au niveau syndical, dans les entreprises et tout ça. Et on l'a fait aussi pour tous ces gens qui se révoltent et qui se bougent. Et tout de suite, on leur dit, bah voilà, bah c'est pas bien, faut pas qu'il y ait... Tant que t'es pas dans le moule, bah voilà, tu es, j'allais dire, a priori, un terroriste. Maintenant, il y a beaucoup ce mot terroriste qu'on emploie, alors, on l'a vu pour le terrorisme vert, le terrorisme... Quand ça les arrange, voilà, alors... Et comme de toute façon, ils ont tout, ils font tout pour que les lois qui sont mises en place soient que des lois répressives pour les gens qui se révoltent ou qui se révolteront demain, je l'espère. Voilà, au bout d'un moment, bah, il faudra peut-être écarter nos peurs et aller de l'avant pour pouvoir changer le monde.
C'est clair, bah, il paraît qu'avoir changé le monde, je ne sais pas, mais en tout cas nos sociétés en ce qui me concerne.
Ben oui.
Mais parce là, que bon, le monde dans lequel on est, il est quand même merveilleux de fonctionnement, de peu qu'on ne soit pas en train de mettre le bazar de partout, en fait.
Moi, je ne sais pas. Moi, la vie est belle, mais il faut lutter pour qu'elle reste belle si on veut qu'elle s'améliore dans l'égalité pour tous. Mais pour le tous, je veux dire, pas forcément que dans le microcosme français, hein, qu'elle soit aussi au niveau international. Quand on voit comment on traite ces migrants qui quittent la misère et qui essayent de quitter la misère, et comment... Hein, quand on voit que notre chère Méditerranée est un cimetière, là, la Manche le devient aussi, voilà, donc soyons fraternels et humains, et après, voilà, mais de toute façon, combattons, parce qu'on n'aura pas d'autre choix que de combattre.
Ça marche, merci à toi. Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour.
T'as quel âge Vincent ?
J'ai 22 ans.
C'est bien ça ?
Bah ouais, c'est bien.
Enfin, c'est bien pour un jeune de 22 ans d'être là, de prendre part aux actions qui se passent. Là, bon, la moyenne d'âge, elle est quand même un peu plus jeune. Du coup, toi, t'es venu pour quoi ?
Moi, je suis venu pour l'augmentation du pouvoir d'achat, pour permettre aux citoyens français d'arrêter de vivre en dessous du seuil de pauvreté, pouvoir vivre dignement, pouvoir se nourrir dignement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est la misère, ça continue. Le gouvernement enchaîne les 49-3, c'est du jamais vu. 4 en 3 semaines, c'est honteux. Et les gens continuent à ne plus en pouvoir. On approche des fêtes de fin d'année, il y a des gens qui vont être à la rue, des gens qui ne pourront pas se payer des fêtes de Noël dignes de ce qu'elles veulent, des parents qui ne pourront pas faire de cadeaux aux enfants comme prévu. Et du coup, je me bats pour que les gens puissent vivre dignement. Et l'augmentation en tout des salaires, quoi, c'est l'appel aussi syndical que je soutiens de la CGT, qui est l'augmentation des salaires et la revalorisation des salaires avant tout, quoi.
Alors tout ça est quand même, on en parlait avec un collègue, très paradoxal, parce que pour autant, les super profiteurs de la situation ne se sont jamais autant gavés.
Exactement, ils ne se sont jamais autant gavés. Et c'est pour ça que nous, on a lancé au sein de la France Insoumise une taxation du super profit, un référendum le référendum des super profits pour taxer ces super profits, parce qu'en fait il y a des gens qui se sont des entreprises qui se sont gavées sur notre dos pendant la pandémie, pendant cette crise, et ni vu ni connu, on n'a rien vu, on n'a rien senti passer. Et aujourd'hui on est là aussi, moi je suis là aussi pour dénoncer ça, pour dire qu'il y a des gens qui se sont gavés et que maintenant il est temps de remettre ça sur la place publique, ce débat là, et les mettre en face de la responsabilité, leur dire maintenant c'est à vous d'agir, vous êtes gavés, rendez l'argent, quoi, un peu départager, donner aux gens qui ont besoin. Parce que je pense qu'ils sont pas à plaindre, ceux qui ont profité de cet argent, ils sont pas à plaindre et ils ont ce qu'il faut, quoi.
C'est clair. Donc remettre un peu de l'égalité, de la fraternité au goût du jour, quoi.
Oui, c'est ça avant tout, remettre du lien citoyen et humain entre nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dans la misère et tellement énervé de voir des gens qui ont plus ou qui sont tellement différents que les gens ne se parlent plus. Les gens sont en colère, ils se fuient, ils se regardent méchamment dans la rue. Et ça, c'est ce qui est le plus agréable, en fait. On est des citoyens humains, on est citoyens français. Pourquoi on ne peut pas vivre ensemble, quoi ? On doit vivre ensemble, on doit s'aimer. Je ne dis pas apprécier tout le monde, mais au moins se respecter. Et aujourd'hui, on ne se respecte même plus. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave, quoi. Quand on voit qu'il y a des gens qui peuvent avoir des propos racistes, violents, et enfin, moi, je trouve ça aberrant, donc je me bats pour tout ça, quoi, pour qu'on puisse enfin vivre en tant que jeune, dans un avenir où on s'apprécie tous et on n'a pas peur de notre prochain, quoi.
Excellent. Et ceux de ta génération, de ton âge, majoritairement, que tu les côtoies, face à ton engagement et tes idées, ils en pensent quoi ? Ils sont juste désabusés ou ça leur passe l'eau au-dessus de la tête ?
Non, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est quand même un peu engagé à leur façon, sur leur thématique. J'ai des amis qui sont engagés sur le féminisme, sur l'écologie, donc qui vont faire le boulot sur des thématiques qui vont leur parler. C'est vrai que je suis un des seuls qui s'engage autant sur autant de thématiques possibles et inimaginables. Parce que pour moi, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Donc tout mérite d'être combattu. Même si on a 22 ans, on peut se battre contre pour les retraites, parce que ça va aussi un jour nous impacter. Mais c'est vrai que certains ne comprennent pas pourquoi je suis dans la rue, pourquoi je me bats, et je leur explique, parce que c'est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, si on ne bouge pas de notre génération, nous maintenant, plus personne ne bougera. Et en fait, on va aller vers un truc où on sera sur un monde surconnecté. Et on va se laisser faire, en fait. Et il ne faut plus qu'on se laisse faire, parce qu'il y a des générations précédentes qui se sont laissées faire, qui ont laissé les choses s'installer, avec lesquelles on vit nous maintenant, et qui nous ont fait du mal, qui sont néfastes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour que nos enfants, nos petits-enfants qui vont arriver après nous, nous reprochent pas ce que nous, on reproche à nos parents ou à nos grands-parents, quoi, qui n'ont pas forcément agi en temps et en heure sur certains sujets, quoi.
Donc une vraie redistribution des moyens, que ce soit des moyens législatifs, financiers, sociaux et autres, pour qu'on vous rende votre avenir, en fait.
Exactement, qu'on ait un avenir digne, pour étudier dignement, vivre dignement, et qu'on ait plus de jeunes qui galèrent, en fait, qu'on n'ait pas à se priver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, par exemple, des jeunes filles étudiantes qui doivent prioriser soit se nourrir ou soit avoir acheté des protections hygiéniques. Et aujourd'hui, en France, ça ne doit pas avoir lieu. On ne doit pas prioriser entre des soins hygiéniques pour des jeunes filles ou de se nourrir, en fait. Elles devraient avoir accès à tout sans avoir à se priver. Il y a des jeunes qui se privent aujourd'hui, qui travaillent en plus de leurs études, qui font des petits boulots dans des Burger King, des McDo ou des fast-food ou du babysitting pour pouvoir se payer des études. Et ce boulot prenant trop de temps, ils arrêtent les études et ils sont découragés. Et aujourd'hui, on voit beaucoup trop de jeunes qui se privent, qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont plus accès à tout ça parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils sont découragés et on nous a laissé tomber pendant la pandémie. Et aujourd'hui, moi, je lance un cri de colère en disant « Écoutez, nous, on est là, on existe et on a besoin, quoi. On a besoin d'aide, on a besoin d'être entendu. »
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que toi, tu te sentais concerné par un peu toutes les crises. Alors, ça se bat au niveau de la jeunesse, au niveau du féminisme, ça se bat au niveau de l'écologie, ça se bat au niveau du social. C'est un peu ce qui ressort sur les gens qui étudient un peu ces mouvements, c'est qu'en fait, toutes ces mêmes crises, elles sont très, très profondément liées, en fait. C'est la crise de nos sociétés actuelles, contemporaines, et de ce monde occidental tout entier au capitalisme, à la prédation, qui met tout le monde dans l'embarras, en fait.
Bah, exactement, tout est lié en fait. Quand on parle de revalorisation des salaires, c'est que ça vient en lien avec le féminisme. On voit que depuis une semaine, les femmes sont plus payées officiellement parce que y a un jour important qui est un peu symbolique en disant que à partir de telle heure, les femmes sont plus payées parce qu'elles ont épuisé par rapport à leur égalité de salaire, par rapport à leur égalité de salaire avec les hommes, elles sont considérées comme plus payées. Et en fait, c'est tout en lien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le combat de ce qu'on mène, c'est-à-dire qu'en fait, on veut revaloriser les salaires, mais aussi faire entendre que les femmes aient le même salaire. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand on voit une femme qui fait les mêmes études qu'un homme dans un cabinet d'avocat, qui fait le même diplôme dans la même école, qui rentre la même année dans la même boîte, et qu'elle se rend compte que monsieur a 500 euros de plus sur son salaire, en fait, on se rend compte que 500 euros, c'est énorme et qu'il y a une vraie inégalité, quoi. Et tout est lié, en fait. Le climat aussi est lié à ces luttes-là. Et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut tout combattre. Alors, pas tout en même temps, mais en tout cas, garder en tête que c'est lié et que c'est en faisant bouger un truc qu'on va déclencher un autre mouvement et que, indirectement, tout va changer si on continue comme ça.
Super. D'autant que, d'après toutes les études aussi menées, l'idée c'est que si on estime qu'il y a 2,5% voire 3% de la population qui se mobilise, ça peut faire changer une société.
Oui, je suis intimement convaincu que peu importe le nombre, on peut faire changer les choses à sa petite échelle. C'est là on est pas nombreux, pour l'instant on n'est pas très nombreux à la manifestation, mais c'est pas grave. On est là, on s'est montré, on a fait quelque chose. Et partout en France, c'est en se prenant des petites initiatives comme ça que les choses vont bouger et qu'on va continuer à maintenir cette petite flamme pour pas qu'elle s'éteigne, qu'elle continue à tenir. Et puis un jour, y a des gens qui vont rajouter un peu de bois, un peu de braise et ça va s'enflammer un peu plus. Et un jour, ça va tellement s'enflammer que là, on va vraiment changer les choses et que ça va devenir une vraie grosse révolte. Et on l'a vécu avec le mouvement des Gilets jaunes qui fête bientôt leur 4 ans. Ou à tel point qu'il y a un moment, les amis capitalistes de Macron lui ont dit, ça a fuité, lui ont dit là, faudrait que tu lâches un peu du lest parce que on a peur, quoi. Et il y a tel point qu'au bout d'un moment, ils ont eu peur pour eux, quoi. Ces Gilets jaunes ont tellement lutté, à tel point qu'au bout d'un moment, le gouvernement a eu peur, qu'on se sont dit, on va être attaqué, quoi. Et je pense qu'il faut pas laisser tomber, il faut se battre, en fait, tout simplement.
C'est vrai que ce serait bien de leur refaire comprendre un peu que, voilà, effectivement, que si les gens bougent réellement, que tous ceux qui soient pour différentes causes, qui soient en désaccord avec les politiques honteuses et destructrices de ce gouvernement actuel se mettent ensemble, oui, et c'est ce qui leur fait peur. Je pense que la répression violente qu'on a vue sur le mouvement des Gilets jaunes, elle vient aussi avant, comme tu dis, qu'ils lâchent un peu la bride, elle vient du fait que là, pour une des fois, comme c'est pas arrivé depuis très 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 longtemps, ils ont vraiment eu peur pour eux, en fait, à juste titre.
Ouais. Non, mais exactement, ils ont. Je pense que si on a eu autant de répression, c'est qu'ils ont aussi très réellement eu peur de ce que ça faisait. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'autant de citoyens français se révoltent, se soulèvent. Et je pense que ce mouvement, il a fait du bien à plein de choses parce qu'il a permis d'émaner plein de choses. Il a lancé d'autres mouvements sociaux. il a permis aux gens de se réveiller, de voir qu'il y a des choses qui n'allaient pas, de permettre à des gens de s'intéresser à la politique aussi, à juste titre, et aussi à d'autres choses de secret quand on voit qu'on a, on a réussi à créer au niveau de l'élection un accord historique entre les quatre gros partis de gauche, le Parti communiste, les partis socialistes, la France soumise et les écologistes, et d'autres partis et associations qui soutiennent. Je me dis, c'est aussi quelque chose qui a émané de ce mouvement-là, un peu des gilets jaunes, quoi, où on s'est rendu compte qu'il fallait là qu'on fasse un truc, qu'on mette chacun notre ego de notre côté, qu'on s'unisse pour aller de l'avant. Et toutes ces choses-là, en fait, nous font garder espoir que ça commence à bouger, en fait, et que là, on est en train d'avancer vers un truc qui vraiment va changer, quoi.
Et moi, j'aurais aussi une note positive, là. J'ai lu divers bouquins dernièrement, là. Il y en avait un qui avait étudié un peu tout ce qui s'était passé au niveau du Covid. Alors, chacun en pense librement ce qu'il veut de cette pandémie et des moyens qui ont été mis en place dans les différents pays pour tenter de contrer cette chose-là. Et il disait, mais quand même, au niveau mondial, c'est la première fois qu'on arrive à bloquer les systèmes financiers et marchands, qu'on arrive à bloquer des pays et à mettre tout le monde d'accord. Donc en fait, partant de ce constat-là, il dit, on aurait largement les moyens de lutter contre tout ce qu'on vient de dénoncer là, depuis 10 minutes là. Il faudrait juste qu'il y ait des élus qui soient réellement honnêtes et non pas juste corrompus, plus que jusqu'au cou, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Non, mais oui, je vois que ça, il y a une vraie, je vois surtout avec ce qu'on a pu vivre, avec les, qu'on en pense qu'on veut ou pas. Moi, je m'exprime pas sur le sujet, mais sur le fond, en fait, on a vu qu'il y avait des gens qui pouvaient se révolter en très gros nombre pour s'opposer à des vaccins, dire ben en fait on pense ça, on s'est renseigné, on pense ça, on a vu telle info sur tel média, un autre type de média, et en fait on voit que les gens peuvent, quand ils veulent, peuvent se soulever, et en fait on peut tous ensemble unis, une fois unis, se révolter. Et en fait ça a permis aussi dans le monde entier de permettre aux gens de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'on pouvait faire changer les choses. Quand on voit en fait en Angleterre que ben en fait ils ont refusé de payer leur facture d'électricité et qu'ils ont réussi à bloquer le pays en faisant ça, ben en fait ça donne des exemples dans d'autres pays, quoi. Et je pense qu'un peu partout dans le monde, quand on va faire des petites choses comme ça, ça donne des exemples. Les gilets jaunes ont donné des exemples dans d'autres pays où des gens ont mis le gilet jaune dans d'autres pays. Je pense en Amérique latine par exemple, où ils ont mis le gilet jaune, et ben eux aussi ça donne des exemples. C'est-à-dire qu'en France, si on voulait demain tous ensemble dans une copropriété, on se dit ben tiens, demain telle copropriété on paye plus notre loyer, et peut-être que là ça va commencer à donner un élan à un endroit, et un peu plus tard à un autre endroit. Et c'est des exemples comme ça un peu partout dans le monde qui vont nous donner la force, je pense, de bloquer peut-être notre pays, voir le monde, quoi.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'à côté de ça, il y a pas mal de mouvements qui, au-delà de la manifestation, etc., sans aller sur une action violente, en sont à prôner, en tout cas de ce qu'on cite là, c'est-à-dire de la désobéissance civile. Joan Baez, chanteuse nord-américaine, l'avait déjà fait pendant la guerre du Vietnam. Là, je viens de relire le livre du climat de Greta Thunberg, et comme d'autres aussi de son époque, et qui ont cette jeunesse en eux, que vous êtes et que vous représentez, et vous avez raison. Elle disait, voilà, la désobéissance civile, jusqu'à ne pas payer les impôts, vu que l'État, de toute façon, en tout cas ceux qui sont derrière les États, se gavent avec ça, avec les impôts qui devraient être largement redistribués pour le bien commun, pour tout le monde, ne sont pas. Elle disait, en gros, ne pas payer les impôts, comme tu viens de citer, c'est peut-être, ou ponctuellement, sur telle ou telle chose, que c'était des moyens aussi très forts, au-delà d'une manifestation, de dire non, là on n'est pas d'accord et on agit en ce sens-là.
Oui, totalement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des modes d'action qui ne fonctionnent plus. Juste être dans la rue à faire une manifestation ou à revendiquer quelque chose avec des slogans, c'est peut-être pas assez fort, le message est peut-être pas assez fort, et peut-être qu'on crie pas assez fort pour atteindre les oreilles du gouvernement et de Madame Borne. Et qu'à un moment, peut-être que les actions les plus radicales, c'est celles qu'on évoque. Et peut-être que la radicalité de la désobéissance civile permet de se faire plus facilement entendre. Et par exemple, il y a des actions qui sont menées en ce moment par des mouvements d'action pour le logement, tout autour de Paris, ils se mettent à bloquer des portions de route. Alors oui, ça énerve les gens, peut-être que ça les ennuie de les voir assis par terre à bloquer la route, mais en attendant, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est bloquer la route, c'est faire une action forte et faire parler d'eux dans tous les médias. Et en attendant, on a parlé dans tous les médias, sur quasiment tous les plateaux télé, ils ont fait un débat autour de ce qu'ils ont fait, sur la légitimité de leur action, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. S'ils avaient juste fait une manifestation, ce serait passé inaperçu. En attendant, l'action-là a permis de faire parler d'eux Et aujourd'hui, je suis à votre micro et je parle de cette action parce qu'elle était forte et les gens en ont entendu parler. Et je pense que c'est par le biais d'actions fortes qu'au d'un moment, on entendra parler de nous et qu'on pourra se faire entendre et comprendre, en fait. C'est la radicalité des actes qui vont nous amener à des changements, je pense.
Quand juste le droit de manifester et d'exprimer une opinion, ce qui est aussi très très bien et aussi nécessaire, ne suffit plus. Bah, pour finir, moi, je vais te citer Nelson Mandela.
Ouais.
Où il avait été interrogé de pourquoi il avait choisi la non-violence pour faire renverser ce qu'il avait besoin de renverser en Afrique du Sud, etc. Et lui rappelait qu'il avait commencé par ça, mais que dès le début, il était tout à fait conscient que si la non-violence et les actions pacifiques ne suffisaient pas, qu'il fallait et qu'il était prêt d'entrée de jeu à radicaliser le mouvement. Donc c'est peut-être là où on en est. Voilà. Donc même si ça part on aimerait tous pouvoir le faire dans la non-violence, dans quelque chose de beaucoup plus pacifique. Mais effectivement, face à l'extrémisme de la répression qu'on a en face, si ça ne suffit pas, peut-être qu'il va falloir faire autre chose.
Totalement, c'est exactement bien résumé. Moi, j'ai toujours commencé mes mouvements de lutte de façon très pacifiste. Il y a des moments où je me suis rendu compte que c'était pas assez fort et qu'il fallait être beaucoup plus radical. Et je l'ai vu quand j'ai soutenu des mouvements de grève dans des facs à l'époque. Où en fait c'était pas assez bien, ce qu'on faisait, c'était pas le côté pacifiste de l'action n'était pas assez fort, et on a dû passer à des actes beaucoup plus forts pour faire entendre notre mécontentement. Et en attendant, ça a fonctionné parce qu'on a fait descendre sur la fac de Grenoble, à l'époque l'ancienne ministre était chargée des études supérieures, ce qui n'aurait pas été le cas si on était aussi pacifiste que prévu. Donc je me dis que c'est peut-être la solution.
Voilà. Ok. Bon, en tout cas, continuez, parce qu'il faut bien faire entendre à ceux du gouvernement là-haut que Elisabeth n'est pas seule, mais elle a dépassé les bornes.
Exactement.
Ça suffit. Merci à toi. Continue.
Merci
bien.
Ça concerne tout le monde, du simple salarié au cadre. Toutes les boîtes qui font grève obtiennent des augmentations de salaire. Donc il faut encourager les assemblées générales dans les boîtes et la grève dans les boîtes. Parce que c'est toujours le même refrain et toujours les mêmes qui doivent se serrer la ceinture. 19 degrés, col roulé, sobriété, loi de finances austéritaire, réforme de l'assurance chômage, réforme des régimes de retraite, austérité salariale. La Macronie mène une guerre éclair contre le monde du travail. Et le travail va mal. Travailler, mais pour quelle finalité? Travailler, mais dans quelles conditions? Travailler pour quel salaire? Ces questionnements sont de plus en plus fréquents chez les salariés, de l'employé jusqu'au cadre. La question des salaires et des pensions est en tête de gondole dans le rayon des revendications, suivie de près par celle de la santé. Le ministre de la Santé a promis 150 millions d'euros aux hôpitaux, mais quand on les compare aux 3 milliards d'euros alloués à l'armée, il est clair pour tout le monde que la priorité du gouvernement, ce n'est pas la santé des enfants. Rappelons que ce sont 5700 lits d'hôpitaux fermés en 2020, 4300 en 2021, et aucun financement ne semble prévu pour couvrir les nécessaires mesures de revalorisation décidées pendant les vagues Covid. De nouveaux coups sont portés à l'encontre de la démocratie au moyen du 49-3 au titre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Les souffrances sont à leur comble, et c'est pourtant le moment choisi par le gouvernement, avec la bénédiction du patronat, pour continuer de taper sur les privés d'emploi, avec une réforme parmi les pires que l'on a connues ces dernières années. Pour faire court, l'allocation chômage augmentera lorsque la situation économique sera mauvaise et diminuera lorsque l'économie ira bien. Mais c'est sans compter les millions de CDI qui sont rompus chaque année. 1 million déjà au premier trimestre 2022, soit 25% de plus qu'en 2017. Chaque tour de vis dans le contrôle des demandeurs d'emploi condamnent leurs enfants à la pauvreté. Nos revendications sont d'améliorer le niveau de vie des chômeuses et des chômeurs, de protéger le salariat, d'ouvrir des droits et d'indemniser dès le premier jour de la perte d'emploi et non de la déclaration. Et enfin, de contrôler la qualité des offres d'emploi qui circulent dans le pays. Car pendant ce temps, le gouvernement continue de choyer le patronat. Baisse de l'impôt sur les sociétés, rabotage des services publics, flexibilisation du marché du travail et aujourd'hui, bouclier tarifaire pour éviter la spirale salaire-prix. Bouclier tarifaire entre nous, comme certains me l'ont dit encore, si tu gagnes 800 euros de retraite par mois et que vous êtes deux, eh bien vous n'y avez pas droit. Parce qu'il ne faut pas dépasser les 20 000 euros par an. Hein ? Tout est bon pour doper les entreprises françaises. Ces aides existent depuis 1981. Au total, 1826 milliards d'euros constants ont été versés aux patrons depuis 20 ans. Et ça, sans aucune contrepartie en matière de création d'emplois et au bénéfice essentiellement des grands groupes pour qu'ils puissent verser des dividendes records à leurs actionnaires. Le président de la République oublie qu'il a été élu par défaut et qu'en aucune façon, il n'a reçu un mandat pour toutes ces réformes. Ces choix ne font qu'alimenter les idées d'extrême droite. Si le président des riches n'en a rien à faire, la CGT reste présente, revendicative et offensive. Nous devons continuer la lutte. Et la banda.